Studio Tamani, voici les informations en français.
En direct de Kaye, vous suivrez cette semaine tous les programmes de Studio Tamani, journaux, magazines, débats et programmes éducation diffusés en 5 langues. C'est à partir de ce lundi jusqu'au vendredi prochain pour plus de proximité avec toutes les voix du Mali. Il est 8h ici à Kaye, même heure partout au Mali. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Voici les titres de ce journal. Affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali, la CEDEAO exige leur libération avant le 1er janvier 2023. Une nouvelle centrale hydroélectrique au Mali, l'infrastructure a été inaugurée ce week-end à Gouina, dans la région de Kaye. En plus du Mali, elle servira 3 autres pays ouest-africains. Visite de courtoisie du secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l'ONU au Mali, Jean-Pierre Lacroix, est attendu ce lundi à Bamako. Le développement de ces titres dans un instant avec Assetou Kanté, Nouhoum Djuré assure la technique. Nous ouvrons cette édition. Le décret de nomination du colonel Abdoulaye Maïga au poste de Premier ministre par intérim a été abrogé hier soir. Sur les réseaux sociaux, une reprise de service du Premier ministre Choguel Kokala Maïga est annoncée pour ce lundi. Mais à ce stade, rien n'a officiellement été dit sur cela. Abdoulaye Maïga, lui, est nommé ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Il assumera aussi l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement du Premier ministre, indique le décret présidentiel. La CEDEAO demande la libération des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali avant le 1er janvier 2023 sous peine de sanctions contre le pays. Annonce faite hier à l'issue de la 62e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de l'organisation à Abuja au Nigeria. Les dirigeants ouest-africains ont aussi adopté un projet de création d'une force antiterroriste et anti-coup d'État. L'aide à transition au Burkina et la tenue d'un dialogue inclusif en Guinée ont aussi été formulés. Une nouvelle centrale hydroélectrique est en service depuis ce week-end à partir de Gouina, dans la région de Kaye. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée ce samedi 3 décembre 2022 en présence des premiers ministres des 4 pays de l'OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Il s'agit du Mali, du Sénégal, de la Mauritanie et de la Guinée-Conakry. L'objectif est de réduire les déficits énergétiques dans ces pays. Les détails avec Kouandja.
La centrale hydroélectrique de Gouina est une initiative de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS. Elle a été réalisée grâce à un financement sous forme de prêt de la Banque chinoise de promotion des exportations, Exim Bank. L'ouvrage a coûté plus de 280 milliards de francs CFA. Sa capacité de production est estimée à 140 mégawatts. Le barrage de Gouina est le 4e de l'OMVS et sa 3e centrale hydroélectrique, a indiqué le premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, qui a présidé la cérémonie d'inauguration. Il avait à ses côtés ses homologues de la Guinée, de la République islamique de Mauritanie et du Sénégal. Pour le gouvernement du Mali et ses partenaires, l'énergie produite par le barrage de Gouina doit être divisée à part égale dans les pays membres de l'OMVS. Avec une capacité de stockage de 136 millions de mètres cubes, le barrage de Gouina est relié à la société de gestion de l'électricité de Manantali, Chogem. Il devrait également augmenter la production agricole dans la zone et faciliter l'accès à l'eau potable.
Et les autorités maliennes saluent cette initiative de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS. Les populations, quant à elles, espèrent que l'ouvrage va permettre de résorber le chômage des jeunes. Les détails avec Mahamadou Samba Diallo.
Cette centrale hydroélectrique va certainement accroître la capacité de production d'énergie, se réjouit le Premier ministre par intérim. Le colonel Abdoulaye Maïga rappelle que cette réalisation est rendue possible grâce au partenariat entre les 4 États membres de l'OMVS et la Chine.
Ce barrage a une puissance nominale installée de 140 MW et un productible moyen de 607 GWh. Cette production associée à celle de la centrale de Férou augmentera la capacité de production de Manantali de 200 à 340 MW.
Les populations riveraines saluent certes cette initiative. Elles soulignent toutefois leur préoccupation par rapport à son impact sur l'emploi des jeunes. Habibou Diakité, maire de la commune rurale de Djamou.
Permettez-moi de m'adresser à la SOGEM, à la SOMAF, afin d'attirer leur attention sur le recrutement des jeunes de la commune au poste d'emploi au niveau de la centrale de Guina.
Pour rappel, les barrages de Guina est déjà connecté au réseau électrique des 4 États de l'OMVS et fournit de l'électricité depuis le mois de mars dernier.
Vous suivez toutes ces informations en direct de Kaya et vous pouvez réagir à toutes ces informations à travers notre page Facebook, notre compte Twitter. Je vous l'annonçais dans les titres, le secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, est attendu ce lundi à Bamako. Sa visite de 2 jours dans le pays intervient au moment où des contingents de la MINUSMA annoncent leur retrait du Mali. Le point avec Ali Mayatara.
Dès son arrivée aux environs de 8 heures, le secrétaire général adjoint des Nations Unies doit se rendre au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. Sur place, une séance de travail est prévue entre Jean-Pierre la Croix et le ministère malien des Affaires étrangères. Au compte du deuxième jour de sa visite au Mali, Jean-Pierre Lacroix prévoit de rencontrer ce mardi le premier ministre par intérim puis le président de la transition, Assimi Goïta. En prélude à cette visite du secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l'ONU au Mali, plusieurs pays ont décidé du retrait progressif de leurs forces militaires et policiers au sein de l'aménagement. Il s'agit notamment de la Côte d'Ivoire, le Royaume-Uni, l'Égypte, le Bénin et la Suède.
Autre sujet dans ce journal, 8 personnes dont 7 enfants ont perdu la vie ce week-end à Ségou, au centre du pays. Au nord, un bus de transport en commun a été attaqué et 4 jeunes braqués. En même temps, l'armée malienne annonce la neutralisation de plusieurs terroristes. Madougou Aghamada nous fait le point sur cette insécurité dans le pays.
Dans la matinée du samedi 3 décembre 2022, une charrette a sauté sur une mine artisanale. L'incident est survenu non loin du village de Togolokura, commune de Kolongo dans la région de Ségou. Pour des sources locales, le bilan est de 8 morts, dont 7 garçons et une jeune femme. À la même date, des hommes armés sur des motos ont intercepté un car d'une compagnie de transport en commun. Le car quittait Gao pour Bamako. Selon les témoins, les assaillants ont sonné les passagers à payer un montant allant de 5 000 à 10 000 francs CFA. Toujours au nord, 4 jeunes ont été braqués par des hommes armés. Ces incidents interviennent au moment où les forces armées maliennes poursuivent des opérations sur le terrain. Dans un communiqué publié ce 3 décembre 2022, les FAMA disent avoir mis hors d'état de nuire une trentaine de djihadistes dans le centre du Mali. C'était du 31 octobre au 5 novembre dernier.
On en vient à présent à notre rubrique Vérifions, une vidéo qui montrerait une visite du ministre malien des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire a été largement partagée sur les réseaux sociaux. Est-ce vrai ou faux? Fatmata Kodjo a pu vérifier pour nous.
Cette vidéo qui prétend montrer une réception du ministre malien des Affaires étrangères par le président ivoirien est un fake. Une recherche par mots-clés nous a permis de retrouver cette vidéo sur YouTube. Il s'agit en effet d'un ancien reportage de la télévision nationale ivoirienne réalisé lors de la visite d'Abdoulaye Diop à Abidjan il y a 11 mois. Ce reportage sorti de son contexte a été largement partagé sur les réseaux sociaux. Certains médias, mais aussi des vidomènes ont même fait des émissions sur ce prétendu déplacement du ministre Diop chez Alassane Ouattara sur les réseaux sociaux. Propagande au manque de professionnalisme, en tout cas, ils ont tout faux. Car le ministre malien des Affaires étrangères n'a pas effectué de visite en Côte d'Ivoire. Il faut rappeler que depuis plusieurs mois, les relations diplomatiques sont tendues entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Cela suite à l'arrestation et détention depuis le 10 juillet dernier des militaires ivoiriens accusés de mercenariat par Bamako.
Et maintenant, faisons un tour sur 2 sujets qui ont marqué l'actualité de la semaine dernière. C'est avec Abdoulaye Touré.
Au compte de l'actualité de la semaine, on note l'adoption ce jeudi de la loi des finances 2023 par le Conseil national de transition. Il est fixé à près de 1 200 milliards de francs CFA. Ce budget présente un déficit global de plus de 675 milliards de francs CFA contre 664 milliards dans la loi des finances rectifiée de 2022, soit une augmentation de 4,73%. Sur la montée des eaux, la crue continue de faire des dégâts tout au long du fleuve Niger dans les régions de Mopti et Tombouctou. Les eaux ont emporté des dizaines d'habitations, pâturages, animaux et des hectares de culture. Les populations de ces localités appellent à l'aide.
Avant de clore cette édition, un mot de sport, football, Coupe du Monde Qatar 2022. Le Sénégal a été éliminé hier soir en 8e de finale par l'Angleterre sur un score de 3-0. Le Maroc est maintenant le seul représentant du continent africain à cette compétition. Il jouera contre l'Espagne demain pour espérer à une qualification en quart de finale. Mais d'ici là, le Japon joue ce soir contre la Croatie à 15h, temps universel. Le Brésil sera face à la Corée du Sud à 19h. C'est la fin de ce journal diffusé en direct de CAI. Vous pouvez le réécouter sur notre site web au www.sudiotamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Restez à notre écoute dans un instant, le magazine. La gestion des déchets liquides reste un gros défi au Mali, notamment à Bamako. Plus de 18 000 mètres cubes de déchets liquides se retrouvent dans le fleuve Niger au quotidien. Les eaux usées sont aussi déversées dans les rues et de nombreux autres sites de la capitale malienne. Cette situation constitue un véritable problème de santé humaine et environnementale, soulignent des médecins et environnementalistes. Le magazine Parlons de l'environnement est réalisé et présenté par Fatia Tara.
Du quartier Bozola à celui de Niamakoro, en passant par Sabalibougou, de nombreux habitants de la capitale malienne se plaignent des eaux usées. Mais par rapport aux responsabilités, ils se rejettent la faute. Écoutons ces réactions recueillies dans ces différents quartiers de Bamako.
Vraiment, on est dans des problèmes. L'eau remplit nos rivières. Nos enfants sont malades à cause de cette situation. L'année dernière, deux chefs de famille se sont battus à cause des eaux usées. Chacun dit que l'eau ne passera pas devant sa porte.
À partir de 18h, certaines familles commencent à vider leurs toilettes et les déversent dans la rue. L'eau est partout, c'est vraiment grave.
Ici à Sabalibougou, les eaux usées nous encerclent. On est envahis par les moustiques et les rats. C'est nous-mêmes les fautifs. Et quand tu demandes à quelqu'un de ne pas agir ainsi, il te dit que la rue n'est pas pour toi.
Ici à Bozola, les eaux ruissellent partout. Pour passer, c'est le parcours des combattants. Il faut y retoucher ton pantalon ou soulever ton pagne, sinon tu tombes dans l'eau. Et les véhicules passants aspergent tout. Il y a des rats et des moustiques partout.
L'environnementaliste Adama Sambou Sissoko rappelle que ces eaux usées polluent les cours d'eau et exterminent des animaux.
Tout d'abord, la première de ces conséquences, c'est la violence oculaire et la violence olfactive. Oculaire dans la mesure où quand on sort dans la rue, quand on voit ces eaux usées déversées dans la rue, ça fait mal à voir. Sur le plan olfactif, c'est que ces eaux usées vont rendre l'atmosphère très polluée, déjà notre odorat est affecté. Ces eaux usées vont se jeter dans les systèmes naturels tels que les marigots, les nymphes, les fleuves Niger, les poissons qui ne pourront pas supporter vont disparaître, sinon vont migrer vers d'autres horizons.
Les eaux usées sont aussi source de beaucoup de maladies, souligne Dr Zantigui Tunkara. Les spécialistes de la santé estiment qu'un changement de comportement et de mentalité s'impose face à cette situation.
Quand il y a la saleté, il y a la maladie. Les eaux usées peuvent donner plusieurs pathologies. Les infections urinaires, les infections cutanées, des boutons, des démangeaisons, par exemple la diarrhée. Il y a des maladies infectieuses comme les infections intestinales, des douleurs abdominales, les mouches, les moustiques, les insectes qui peuvent causer des dégâts. Les souris par exemple. Et ces souris-là, chacun de nous connaît ce que ces souris-là nous apportent. Quand un souris touche à une nourriture et qu'une femme enceinte mange ça, ça peut lui donner une maladie qu'on appelle toxo. On ne peut pas éviter la mort, mais on peut éviter la maladie.
Au-delà du comportement et de la mentalité, l'environnementaliste Adama Sambou Sissoko affirme que le développement du système d'épuration reste aussi un défi.
Et ce qu'il faut décrier surtout, c'est le manque de stations, l'inexistence de stations de traitement ou de pré-traitement de ces eaux usées.
Il faut noter qu'au Mali, plus de 18 000 mètres cubes de déchets liquides sont déversés dans le fleuve Niger chaque jour sans traitement, selon les autorités en charge de l'assainissement. C'est ce qui marque la fin de ce numéro du magazine Parlons de l'environnement, présenté par Fatia Tara. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine pour un autre numéro du magazine Parlons de l'environnement.